Tendance première,
Véronique Thiberghien.
Docteur Catherine Gillin est avec nous. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Neurologue, spécialiste de la réadaptation fonctionnelle. On va parler ponction lombaire avec vous aujourd'hui. Et on a une première petite mise au point. Mélanie nous dit, ma maman a eu 4 ponctions lombaires sur une semaine. Ça se faisait dans l'os de la hanche.
Non.
Non.
Non, non.
Si c'est la hanche, c'est pas lombaire.
C'est pas lombaire, c'est pas du liquide céphalo-rachidien.
D'accord. Alors, faut peut-être rappeler les bases, du coup,
voilà.
Et essayer d'un peu comprendre. Qu'est-ce que ce LCR, ce liquide céphalo-rachidien, à quoi sert-il?
Alors, pour expliquer ce qu'il est, à quoi il sert, il faut redonner une première base, c'est le système nerveux.
Mm-hmm.
La fonction essentielle du système nerveux, c'est de nous permettre à nous, individus, d'interagir avec l'environnement. L'environnement tant externe, le monde extérieur, qu'interne, c'est-à-dire avec nos 5 sens, de percevoir toutes les informations utiles,
oui,
qui peuvent être des informations du monde environnant ou, par exemple, de vos viscères, et puis d'avoir un processus de décision et une interaction avec ce monde extérieur ou avec vous-même. Allez prendre un antidouleur si vous avez mal, par exemple. Étant donné que le système est extrêmement vital, la nature a prévu de protéger l'essentiel, le disque dur, si je peux me permettre cette petite métaphore, parce que c'est quand même beaucoup plus qu'un disque dur. Donc, c'est-à-dire que le cerveau et la moelle épinière sont protégés par de l'os. Donc, dans la boîte crânienne, vous avez les deux hémisphères cerveaux, le cervelet et le tronc cérébral. Et dans la colonne vertébrale, vous avez toute la moelle épinière. D'où sortent les nerfs crâniens, les nerfs vers nos membres, vers nos viscères, et d'où arrivent par d'autres nerfs les informations extérieures. Et donc cette protection, elle est à la fois osseuse, elle est aussi méningée, c'est-à-dire qu'on a 3 couches de substances, de tissus très solides, mais différents, qui permettent une protection à la fois mécanique, comme l'os aussi, mais plus souple, si je peux dire, donc pour coup et contre-coup, par exemple, et une protection aussi vraiment vitale, comme une espèce de petit gant qu'on allait mettre autour, vous voyez, pour qu'il y ait vraiment une protection tout à fait proche du tissu noble lui-même. Alors, le liquide céphalo-rachidien se situe à l'intérieur de ce... Donc, c'est dans un circuit fermé. Pourquoi ? Pour protéger le système nerveux central de tout ce qu'il peut y avoir comme infection, par exemple, ou bien anomalie du sang. Donc, toutes les altérations qui peuvent arriver dans le sang ne passent pas dans le liquide céphalo-rachidien.
Il n'y a pas de mélange.
Sauf s'il y a un problème.
Oui.
Et donc, le liquide céphalo-rachidien est fabriqué de façon active par un certain type de cellules qui sont des filtres, qui le fabriquent à partir du sang artériel. On en fabrique environ 500 ml par jour, avec constamment dans ce circuit fermé environ 150 ml. Et puis, une fois que ça a circulé, dans des poches internes qu'on appelle les ventricules, dans un trou dans la moelle qu'on appelle le canal ependymaire, et puis autour dans les méninges, ça circule aussi, il est éliminé par d'autres cellules, filtres vers le sang veineux. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans les problèmes de baignoire qu'on avait à l'école primaire.
Oui.
Il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre ce que l'on produit et ce que l'on élimine,
oui,
pour qu'il y ait une bonne homogénéité de circulation du liquide céphalo-rachidien. Alors son but, il est de deux ordres. Il est aussi un rôle de protection mécanique, parce que ça fait une espèce de tampon, si vous voulez, lors de choc. Et puis, il a un rôle absolument fondamental, qui est un rôle nutritif. Les neurones, les cellules de la glie, donc les astrocytes, les oligodendrocytes, etc., sont nourris via le liquide céphalo-rachidien et non pas directement via le sang.
Et pourquoi pas ? Parce que ça serait
pour protéger. Oui, oui, vraiment pour protéger. Donc, si par exemple vous avez une grippe, s'il n'y avait pas ce type de protection, le virus de la grippe pourrait vous faire une encéphalite.
D'accord.
D'accord. Alors évidemment, parfois, ça passe, ça existe, les encéphalites, les méningites, ça existe. Mais il y a au départ le maximum de filtres qui a été prévu par la nature.
Alors, pourquoi est-ce que ce liquide est protégé par le corps de manière aussi intense? Qu'est-ce qu'il a de si précieux? Il est fait de quoi, ce liquide?
Alors, il est fait d'eau, il est fait de pratiquement pas de cellules, il n'y a pratiquement pas de globules rouges ni de globules blancs, il est fait d'albumine, qui sont les protéines qui passent dans le liquide céphalorachidien. Et il est fait d'un taux de sucre qui est en général corrélé au sucre sanguin. Et le sucre est fondamental pour l'action, le métabolisme des neurones. Donc il a un rôle vraiment nutritif important. Il a certainement d'autres rôles, immunitaires et autres, mais qui sont encore en voie de découverte.
Il nourrit le cerveau, quelque part.
Oui, tout à fait.
Il permet au cerveau de fonctionner, oui. Etc. Mais donc, le fait qu'il soit aussi bien protégé fait aussi en sorte qu'il soit difficilement atteignable. On reviendra sur cette fameuse ponction lombaire qui est le seul moyen aujourd'hui d'atteindre et d'analyser ce
En fait, c'est un circuit fermé.
Oui.
Donc, enfin, on a d'autres moyens. On peut vous faire une ponction ventriculaire directement, donc en vous trépanant.
Dans le crâne ?
Oui.
C'est pas sûr que ça me rassure.
Mais ça, on va pas le faire. Alors, on va pas le faire pour analyser le liquide céphalorachidien. On va le faire dans d'autres pathologies. Par exemple, si il y a trop de production du liquide par rapport à l'élimination, comme on disait, votre baignoire va déborder. Oui. Donc, on a trop de pression dans la tête. Ça s'appelle une hypertension intracrânienne. Ça peut parfois être d'origine génétique. Il y a des enfants qui naissent avec ce problème-là ou ça peut être acquis en cours de vie. Dans ce cas-là, effectivement, à ce moment-là, on traite en trépanant, en mettant un tuyau de dérivation, c'est vraiment ça, dans une corne. Donc, ce qu'on appelle une corne, c'est le système ventriculaire, c'est des espèces de deux grandes poches qui forment une corne, je ne sais pas dire autrement. Bref, on met ce drain dans le système ventriculaire, on le passe sous la peau et l'autre extrémité va dans notre ventre, dans notre péritoine qui accepte très bien de recevoir le liquide.
D'accord.
Il y a évidemment une valve qui fait que ça ne remonte pas, on est d'accord. Mais donc, on peut le faire dans des cas de figure comme ça. Mais quand on a besoin d'examiner ce liquide, parce que ça nous informe sur énormément de choses, ça nous informe sur l'état de santé, j'ai envie de dire, du système nerveux central. Donc, on peut avoir des diagnostics de maladies inhérentes au système nerveux. Et puis, ça peut nous informer s'il y a une infection, une méningite, une encéphalite, de quel type. Ça peut nous informer s'il y a des maladies auto-immunes, sclérose en plaques, Guillain-Barré, des choses comme ça. Ça peut nous informer s'il y a une rupture d'un vaisseau, une hémorragie méningée. Donc, c'est vraiment extrêmement utile de pouvoir l'analyser. Et pour l'analyser sans être traumatisant, ça j'insiste, on va le prélever au niveau lombaire, donc le bas de la colonne vertébrale. Il n'y a plus de moelle épinière à ce niveau-là. Elle s'arrête vraiment au tout début du niveau lombaire. Après ça, nous avons les grandes racines nerveuses qui vont vers le ventre et les membres, et puis qui forment une espèce de gros amas qu'on appelle la queue de cheval, d'ailleurs. Et donc, aller prélever à ce niveau-là n'a pas un impact dangereux pour le système nerveux central.
D'accord. Quelle est la différence essentielle dans les analyses dont on va... Alors, on va revenir dans les détails, évidemment, sur ce que ça peut montrer comme fonctionnement ou dysfonctionnement chez la personne chez qui on analyse le LCR, mais en quoi est-ce que c'est différent du sang et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ces informations par une simple analyse de sang, par exemple? Parce que les cellules sont des supercellules, celles qui
sont... Non, parce que précisément, comme il y a ces cellules filtres...
Oui.
Qui fabrique et puis qui élimine, on appelle ça la barrière hémato. Hémato, ça veut dire sang, encéphalique. L'encéphale, c'est l'ensemble du système nerveux dans le crâne. Donc, cette barrière hémato-encéphalique fait vraiment... Il n'y a pas de passage entre le sang et le liquide céphalorachidien. Et donc, dans le sang, on n'a pas du tout les mêmes informations.
C'est ça.
Et il faut vraiment aller le prélever pour pouvoir analyser le liquide en soi.
C'est ça. Il y a une forme de pureté dans le LCR qu'il n'y a pas forcément dans le sang et des informations dans le LCR qui n'existent pas dans le sang.
En fait, c'est comme si vous me demandiez pourquoi en ponctionnant un genou, par exemple, si un genou est inflammatoire, pour une raison X, on peut se demander si c'est inflammatoire, infectieux, traumatique, etc. Parfois, on les ponctionne pour analyser. Ou bien, on peut faire une ponction dans la plèvre, au niveau du poumon. C'est comme si vous me posiez la même question, parce que tout ce qui est liquide in situ, localisé dans quelque chose, n'est pas le reflet du sang. Il ne faut pas oublier que le sang, lui aussi, il est dans un circuit fermé. Il circule dans des artères. Il nourrit le tissu, du tissu ça revient dans des veines qui amènent au cœur, qui le travaille, qui renvoie dans les artères.
Oui.
Enfin, qui le travaille, qui le... Allez, Je suis médecin, je vais expliquer les choses correctement.
Enfin, vos collègues, ils vont vous appeler.
Donc qui l'oxygène au niveau du poumon, voilà, c'est fondamental. Et puis, donc, c'est aussi un circuit fermé, le sang. Et on n'a donc pas les mêmes informations dans le sang comme dans tous les autres liquides du corps. On peut ponctionner tout ce qui est liquidien dans nos corps, dans notre corps.
On va voir avec vous dans un instant, docteur Catherine Gillin, ce que l'on peut observer réellement et en quoi est-ce utile. Et on a des questions pour, par rapport à la douleur que l'on peut ressentir lors d'une ponction lombaire. Et des personnes qui demandent pourquoi il faut absolument passer par cette douleur, pourquoi on n'endort pas, pourquoi il n'y a pas des choses comme ça. Alors, comme je n'ai jamais fait de ponction lombaire, vous allez m'expliquer évidemment ce qu'il en est.
Tendance première.
On est avec le docteur Catherine Gillin, neurologue spécialiste de réadaptation fonctionnelle. On parle du liquide céphalo-rachidien de ponction lombaire, avec des témoignages à vous qui peuvent nous arriver, évidemment. Léon nous dit « Je dois dire que moi, ma ponction lombaire, je ne l'ai pas sentie, mais on a su à peine prendre quelques dixièmes de centilitres. J'ai pourtant dans la tête un trop ». Mais qu'on n'a pas su enlever, nous dit Léon. Et par rapport à cela, Marie nous dit « J'ai dû subir une ponction lombaire, ça a été extrêmement douloureux, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas endormir dans ces cas-là. »
Bien. Alors, la douleur dépend de plusieurs choses.
Oui.
Très sincèrement, ça dépend d'abord de la personne qui vous fait la ponction lombaire.
Ses compétences.
Voilà. Et puis, ça dépend si vous avez, par exemple, beaucoup d'arthrose. Les personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des tassements vertébraux, c'est évidemment beaucoup plus difficile de pouvoir passer, parce que ce que l'on fait, c'est qu'au niveau lombaire dont je vous parlais, on doit passer l'aiguille entre deux vertèbres. On arrive à ce moment-là au niveau... Ça, c'est comme une péridurale. Ce qui est différent de la péridurale, c'est qu'on va percer la dure-mère, donc cette méninge assez épaisse, et tant... Le bord de l'os, qu'on appelle le périoste, que la mélinge, sont très très innervés. Il y a beaucoup de petits nerfs. Ça, c'est aussi pour que, instinctivement, vous, entre guillemets, réagissiez s'il y a quelque chose d'agressif. Oui, oui. Donc, c'est prévu par la nature, ça. Ok, donc, ça peut, au moment du passage, si on touche l'os, mais ça, c'est pas chez tout le monde, si quelqu'un... Elle a des vertèbres normales et voilà, ça n'est pas douloureux en soi si on parvient à passer entre les vertèbres. Au moment où on perce la méninge, on sent sûrement une petite piqûre, on va dire. Mais alors, ce qui se passe parfois aussi, c'est qu'on peut être amené à toucher une racine nerveuse. Et à ce moment-là, vous avez une douleur comme une sciatalgie aiguë. Voilà le type de douleur que l'on peut avoir.
On n'est pas égaux quoi, devant la douleur.
On n'est pas égaux anatomiquement, structurellement, donc c'est vrai que ça peut changer. Mais je vous promets qu'avec ce qu'on a comme type d'aiguille actuellement, la plupart du temps, c'est vraiment pas un problème du tout, du tout, du tout, du tout. Et je regrette qu'il y ait encore... Je crois que si on pouvait effectivement un peu dédramatiser le problème et que les gens soient plus au fait que la plupart du temps, c'est un peu comme les prises de sang aussi. Quand j'ai dit à certains patients que je dois leur faire une prise de sang, il y en a vraiment qui crient et qui veulent pas tellement, ça fait mal. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui disent ok, sans problème. Donc, ça dépend à la fois de la personne qui le fait et à la fois de l'anatomie ou la sensibilité du patient.
Le fait qu'on n'endorme pas, il y a une raison particulière.
Alors, on peut endormir la peau, mais on aller piquer pour endormir à l'intérieur, ça n'a pas de sens puisqu'on pique de toute façon.
On repique et on resurpique après.
Voilà. Alors, aller injecter quelque chose, c'est plus délicat si on va trop loin, parce qu'alors on risque d'altérer justement notre chemin. C'est-à-dire que quand on fait la ponction lombaire, je vous assure que c'est quelque chose qu'on finit par sentir. La façon dont on enfonce l'aiguille, dont on pique l'aiguille, on prend nos repères, la façon dont on l'oriente, c'est vraiment une expérience. Ça, voilà.
J'en entends qui disent « Aïe, j'ai mal », ils le sentent déjà. Et pourtant, on l'a dit aussi, ce LCR permet aujourd'hui de détecter beaucoup de choses et dans des éléments assez vastes de notre santé. Alors, on peut parler rapidement des infections que sont la méningite, parce que c'est celle qui est la plus connue dans le grand public.
Oui, alors ça, c'est fondamental, évidemment, parce que si vous avez une méningite d'origine virale, la plupart du temps, elle est bénigne, elle se résout très bien toute seule, il ne faut pas s'inquiéter. Dans une méningite virale, donc le sujet arrive avec des maux de tête importants, avec ce qu'on appelle les signes méningés, on voit tout de suite à notre ponction lombaire que le liquide reste parfaitement clair, parce que c'est un magnifique liquide. On l'appelle eau de roche. Il est vraiment hyper clair. C'est vrai, il a presque rien. Il a un peu de protéines, un peu de sucre, il n'y a pas grand-chose dedans. Et donc, déjà en voyant que le liquide est clair, on est rassuré. Si c'est une méningite bactérienne ou à méningocoque ou à pneumocoque, enfin bon, tout est crasse, à ce moment-là, le liquide va être trouble, voire purulent même parfois. Donc déjà l'aspect, on sait dans quel type de méningite on est face. Et puis, c'est fondamental parce que l'analyse alors de l'infection va nous permettre de reconnaître le germe, de l'identifier et de tester l'antibiogramme. Donc c'est absolument fondamental de faire une ponction lombaire dans une suspicion de méningite ou d'encéphalite.
Mmh. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type d'infection ?
Que virale et bactérienne ?
Oui.
Oh, tous les coques et tous les agents infectieux classiques. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Ils sont tellement nombreux.
Alors parlons par contre de ce qui est aussi extrêmement intéressant aujourd'hui et qui va nous intéresser au plus haut point. Ce sont les biomarqueurs.
Oui, alors ça, c'est vraiment l'avènement des dernières années. On en a discuté un petit peu à l'émission précédente. On s'est rendu compte que dans tous les liquides, on peut avoir ce qu'on appelle les biomarqueurs, c'est-à-dire on peut mesurer des éléments qui nous permettent de savoir l'état de santé de l'organe dans lequel le liquide se trouve. C'est particulièrement important pour le liquide céphalorachidien parce que les maladies neurodégénératives, on s'est rendu compte qu'il y avait des biomarqueurs que l'on pouvait mesurer et en les mesurant, un, on peut être sûr du diagnostic, ce qui est même fondamental, et notamment pour la recherche. Comme vous savez, on est en train de faire beaucoup, beaucoup de recherches pour essayer de trouver des traitements dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, dans le Parkinson aussi, dans d'autres types de démence. Et pour pouvoir être sûr de l'effet des médicaments qui sont pour l'instant ciblés sur les anomalies cellulaires, il faut de un, être sûr que votre patient a bien une maladie d'Alzheimer. Il n'y a qu'avec les biomarqueurs qu'on en est certain. En mesurant le taux pathologique chez ce patient, on peut par la suite, en faisant des ponctions lombaires de contrôle, savoir si l'essai thérapeutique est valable ou pas. Donc en recherche, c'est déjà très très important. En pratique clinique, comme on l'a dit, ce n'est pas encore courant, mais on approche de plus en plus quand même des algorithmes qui nous permettraient de pouvoir identifier un patient qui commence à avoir des troubles de la mémoire, s'il est à risque ou pas, à quelle proportion, à quel degré. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Et on commence à avoir des biomarqueurs dans d'autres maladies neurodégénératives, donc par exemple la maladie de Parkinson. Alors là, vous allez me dire, le diagnostic est plus sûr cliniquement, mais en même temps, une fois de plus, on est dans des développements de thérapie, notamment de thérapie génique, qui vont permettre de pouvoir déterminer si les projets sont vraiment efficients ou pas.
Ce qui est important, c'est qu'on peut justement déterminer très tôt un diagnostic. Et on sait aujourd'hui que dans les maladies neurodégénératives, plus tôt on a un diagnostic, plus les outils, les traitements ou les possibilités de traitement à mettre en place seront à la fois vastes et efficaces.
Tendance première, Véronique Guiberguière.
Témoignage, reçu par SMS au 60-31, 75 centimes le message. Lors de ma polio en 1956, j'ai subi une ponction lombaire dans la cuisine tenue par trois adultes. Douleur atroce, j'ai hurlé et jamais ces instants de torture ne s'effaceront de ma mémoire.
Oui, mais heureusement, les choses ont changé.
Ah, oui. Et il précise, enfin il ou elle, parce que c'est pas signé, mais il précise que par contre, quelques jours plus tard, j'ai pu bouger la tête alors que j'étais tétraplégique depuis plusieurs mois. Voilà en quelques mots. On a décompensé une pression, probablement.
Dans la polio, il n'y a pas d'hyperpression.
Oui, enfin, vous n'avez pas le dossier médical.
Non, je n'ai pas le dossier médical. c'est intéressant, ce témoignage. Je crois que c'est pour ça que la ponction lombaire fait encore peur. C'est parce que ce sont ces témoignages-là qui frappent les gens. Mais heureusement, en 62 ans, on a considérablement évolué dans nos techniques.
Oui.
Et aussi dans nos capacités, d'analyse.
Alors, revenons justement sur ce facteur. C'est pour ça que je disais facteur enfin, des éléments prédictifs dans le LCR qui permettent de poser un diagnostic extrêmement précis. On peut peut-être rappeler en deux mots pourquoi il est essentiel, notamment dans la maladie d'Alzheimer, entre autres, mais pourquoi il est essentiel d'avoir un diagnostic précis.
Mais tout d'abord, je pense que pour le patient lui-même et pour son entourage, c'est vraiment fondamental de savoir de quoi il souffre, parce que en mettant un nom sur la maladie, on peut mieux l'aborder, on peut mieux faire son deuil aussi, et on peut mieux décider de ce que l'on va faire. On a une idée pronostique, donc c'est quand même fondamental. Et donc, pour être sûr de ça, c'est... Enfin, ça me paraît évident, et je dois quand même vous signaler que depuis qu'on fait plus de ponctions lombaires pour être certain de nos diagnostics, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 30% de surdiagnostic, c'est-à-dire de patients qui étaient diagnostiqués Alzheimer alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils avaient des processus démentiels, hein, je ne dis pas qu'ils étaient sains.
Mais ce n'était pas la maladie d'Alzheimer,
c'était pas la maladie.
Une autre Parce forme que, dégénérative.
Voilà, rappelons que l'Alzheimer, c'est 60% des démences. Il y a 40% de démences qui sont d'autres types.
Et il y en a quelques-unes. Hein.
Oui.
Oui. Donc, alors, le fait de se tromper dans un diagnostic, évidemment, c'est très embêtant, parce que c'est se tromper aussi dans la forme de traitement, de prise en
tout
charge
à fait,
par la suite.
Tout à fait. Et ça coûte cher à la société, parce qu'on peut parler éthique aussi. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Ça ne sert à rien de donner des médicaments anti-Alzheimer si ce n'est pas un Alzheimer. Donc voilà, c'est fondamental.
C'est là qu'on va aller chercher les protéines tau dont
oui,
on a beaucoup parlé
absolument.
Dans la maladie d'Alzheimer.
Absolument. Alors, la protéine tau, c'est une protéine de dégradation d'un neurone qui a souffert. Et donc, elle va être présente en taux anormalement élevé, non seulement dans la maladie d'Alzheimer, mais dans d'autres pathologies qui entraînent des altérations de la protéine tau. On ne va peut-être pas rentrer dans un diagnostic différentiel. Donc, dans l'Alzheimer, ce qu'on doit faire, c'est regarder la protéine tau et la bêta-amyloïde. La bêta-amyloïde, donc cette substance amyloïde anormale qui va se déposer dans le tissu cérébral, comme elle va se déposer en paquet, elle diminue dans le liquide céphalo-rachidien. Et donc, c'est en évaluant de quel taux, quel ratio et comment ça évolue, qu'on va pouvoir diagnostiquer et puis suivre l'évolution du patient.
Mmh. On a une personne qui pose une question, alors je ne sais pas si ça entre dans le cadre ou pas. On avait diagnostiqué, nous explique-t-elle, un cancer du cerveau à son père, mais sur le tard. Elle se posait la question de savoir si une ponction lombaire prise suffisamment tôt, notamment à l'occasion de maux de tête qui peuvent paraître bénins dans un premier temps, pourrait permettre de détecter aussi des cellules cancéreuses.
Alors, si la tumeur est en dehors du système dans lequel circule le liquide céphalo-rachidien, non. Par contre, il y a notamment les cellules ependymaires qui fabriquent le liquide céphalo-rachidien, se développent parfois en tumeur, un ependymome. Donc là, oui, alors on peut trouver des cellules tumorales.
D'accord.
On peut aussi trouver des cellules tumorales par envahissement. Il y a des lymphomes des méninges qui, là, ça vient du sang par contre, et ça parvient à passer la brèche, et donc on peut effectivement trouver des cellules tumorales dans le liquide céphalo-rachidien, mais il faut qu'il y ait une brèche vers le liquide, ou que ce soit développé à l'intérieur du système ventriculaire.
Dans le cadre d'autres maladies neurodégénératives, Guillain-Barré ?
Alors, Guillain-Barré, c'est pas une neurodégénérative, c'est une maladie auto-immune, donc vraisemblablement, suite à un agent infectieux, le corps développe des anticorps contre l'agent infectieux, et cet anticorps reconnaît comme étant l'agent infectieux les racines nerveuses. Donc il se trompe, si vous voulez. C'est ça des maladies...
Quel con !
Il y a beaucoup de conneries à ce niveau-là, au niveau du système immunitaire. Bon, donc... c'est une destruction des racines motrices.
Oui.
Donc on est en dehors du système nerveux central. Mais n'empêche que ce processus immunitaire est extrêmement inflammatoire et finit par envahir effectivement les structures méningées et le liquide céphalo-rachidien. Et donc on peut faire le diagnostic en prélevant du liquide céphalo-rachidien. Et ce que l'on trouve dans le Guillain-Barré, c'est un taux extraordinairement élevé de protéines, qui sont des protéines témoins du processus inflammatoire et auto-immun surtout. On a la même chose dans une maladie qui n'est pas infectieuse de la personne âgée. Quand une personne âgée à des troubles de la marche progressifs. On pense qu'il a une petite atteinte des nerfs périphériques, on pense à des choses bénignes. Il faut aussi penser à une atteinte auto-immune inflammatoire chronique des racines, qui est une maladie auto-immune dont on ne connaît pas très très bien l'origine et qui peut être aidée en faisant des cures d'immunoglobuline. Donc là aussi, le diagnostic est fondamental. Et dans le Guillain-Barré, il est fondamental parce que le Guillain-Barré, c'est quelqu'un qui doit être hospitalisé parce qu'il perd en qualité motrice, il peut être complètement paralysé et notamment des muscles respiratoires.
On termine avec la sclérose en plaques.
Alors la sclérose en plaques, c'est aussi une maladie immune. Comme vous le savez, elle est assez fréquente, elle est grave. Et la sclérose en plaques se diagnostique bien sûr par la clinique et par l'imagerie. La résonance magnétique nous donne des indications tout à fait extraordinaires. Mais dans les derniers critères diagnostiques, on a remis sa place au liquide céphalorachidien. Parce que là, non seulement on peut faire un diagnostic par la présence de ces témoignages de cellules inflammatoires et du processus immunitaire, mais oui. On commence aussi à avoir des biomarqueurs qui peuvent nous donner une idée de l'évolutivité, donc de la poussée, des marqueurs de poussée, et puis des marqueurs de progression, et puis des marqueurs aussi en tout début. Est-ce que ça va devenir une sclérose en plaques poussée-rémission? Ou est-ce que ça va devenir une sclérose en plaques progressive? Donc ces biomarqueurs ne sont pas encore courants, mais ils sont en train de déterminer, et donc on aura une possibilité vraiment de suivre aussi le patient, de suivre, d'avoir une idée pronostique due à sa maladie et de suivre l'efficacité du traitement.
On a Albert Kounet qui a réagi, qui est le président de la Ligue Huntington.
Bien sûr.
Qui nous dit « Des essais cliniques de phase 3 pour Huntington vont commencer sur 650 personnes. Il s'agit d'injections de molécules dans le liquide céphalorachidien. Les essais en phase 2 précédents ont démontré une diminution substantielle de la protéine Huntington muté. »
Tout à fait, et on le fait aussi maintenant, c'est même d'actualité au niveau thérapeutique, chez les enfants qui sont atteints de pas la sclérose latérale amyotrophique, je trouve plus chez l'enfant, donc de ce qu'on appelle les amyotrophies spinales, voilà. Donc ce sont des enfants qui naissent génétiquement paralysés et qui vont avoir une paralysie progressive. Et maintenant, par injection intrathécale, donc on injecte dans le liquide céphalorachidien un produit qui, par thérapie génique, va aller corriger des protéines anormales.
On a deux anesthésistes qui ont réagi. Isabelle qui nous dit, pour ce qui est des ponctions lombaires, pour les phobiques, il faut leur signaler l'existence de l'échographie lombaire utilisée par les anesthésistes pour orienter correctement la ponction.
Oui.
D'un autre côté, mais donc ça n'évite pas la ponction.
Non.
C'est juste qu'on a une imagerie qui permet. Oui. Okay. D'un autre côté, c'est une exigence que le patient doit avoir de ne pas avoir mal. Il faut trouver un médecin qui ne soit pas sadique et qui apporte l'attention nécessaire à l'indolorité, nous dit Isabelle. Et alors, autre témoignage, Bernard, qui est aussi anesthésiste, et je suis professeur, nous précise-t-il, ancien chef de service à l'UCL. Je me suis battue toute ma vie pour que les ponctions lombaires soient indolores. Les anesthésistes utilisent deux techniques. S'assurer le trajet que va prendre l'aiguille et le fait qu'il emploie un introducteur qui permet que les aiguilles les plus fines ne soient pas abîmées lors de la ponction. Parfois, ça devient un petit crochet et ça peut blesser la moelle épinière lors du retrait.
Je ne suis pas d'accord.
Les personnes de mon service demandaient toujours que ce soit fait par un anesthésiste, car la ponction lombaire faite en de bonnes conditions et par un anesthésiste n'est pas du tout douloureux.
Je me permets de dire qu'il y a des neurologues qui le font de façon non douloureuse aussi. Par exemple.
mais c'est vrai.
Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, mais il ne faut pas non plus...
Non, mais ça rassure. À mon avis, il dit que c'est une demande qui est faite. Et je pense que ça rassure de se dire que c'est un anesthésiste. Mais de fait, du moment que le geste est bon...
Oui, c'est comme pour tout. Il faut quelqu'un de professionnel. Et évidemment qu'on fait tout pour que le patient n'ait pas mal, bien sûr.
Et c'est effectivement une exigence. Mais c'est vrai que c'est dans le geste, dans la pratique, et on l'a dit, on n'est pas tous égaux devant la douleur. Et parfois.
Alors si tous les hôpitaux, si tous les anesthésistes des hôpitaux sont d'accord de faire les ponctions lombaires, pourquoi pas ?
Ah, c'est pas le cas. Effectivement. Docteur Catherine Gillet, on vous retrouve très vite dans notre émission pour nous éclairer sur tout ça. On voit qu'effectivement, le liquide céphalorachidien, c'est intéressant de l'étudier, de continuer à faire beaucoup d'études dessus parce qu'il offre de belles possibilités.